L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est le nouveau nom de Radio Évasion, vous commencez à le savoir je pense. Mais L'EM c'est toujours en direct à midi et c'est toujours en diffusion à 18h ou presque toujours. L'association Bretagne Vivante vient nous voir dans L'EM une fois par mois, ça aussi c'est une sorte de coutume. Ça nous ouvre un vaste champ d'exploration. Des animaux, parfois des végétaux, plus généralement des milieux. La dernière fois, c'était la plage. Alors cette fois, on reste côté mer, mais on prend peut-être davantage le large. Quoique, on va lever la tête en direction d'oiseaux qui nous sont familiers. Mais les connaissons-nous vraiment, les goélands? Bernard Cadieux est ornithologue chez Bretagne Vivante. C'est lui qui se fait porte-bec des goélands. Bonjour.
Bonjour.
Alors ces goélands, combien en comptons-nous sur nos rivages bretons? Parce qu'en fait, il n'y a pas que le goéland argenté le plus connu.
Non, tout le monde connaît le goéland argenté. Enfin déjà, à la base, beaucoup de monde confond le goéland et la mouette.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est une autre histoire. Et donc sur nos rivages, là on est au mois d'avril, on est au début de la saison de reproduction. Et donc on a effectivement le goéland argenté qui est le plus nombreux, que tout le monde connaît. Mais on a aussi le goéland brun qui a un dos gris foncé. Et on a après le plus gros de nos goélands, qui est le goéland marin, qui lui a un dos complètement noir. Et puis ces trois goélands de Bretagne, ils ont aussi un cousin en Méditerranée qui s'appelle le goéland lecoffé.
Mais sinon, dans le monde, il en existe encore d'autres espèces,
sinon,
je
suppose. Oui, sinon, dans le monde, il en existe plein d'autres, tout à fait.
Et alors, on peut peut-être dire quand même comment est-ce qu'on distingue un goéland d'une mouette, même si...
Bon, alors la distinction dans le langage, il y a certains pays où ils ne distinguent pas en fait. En français, oui, il y a deux mots, goéland et mouette, dans d'autres pays, chez les Allemands et chez les Anglais, c'est un seul nom. Petite subtilité. Mais de manière générale, on va dire que le goéland a tendance à être un peu plus gros que la mouette, voilà.
Puis il y a une histoire de bec aussi qui est différente, non?
Alors la forme du bec va être un peu différente, mais on trouve certains goélands qui ont un bec qui ressemble au bec des mouettes. Voilà, donc c'est subtil. Voilà. Mais oui, nos trois goélands ont un bec assez massif, un bec jaune avec une petite tache rouge que n'ont pas les mouettes que l'on croise sur nos rivages.
La fameuse petite tache rouge. Et tous les goélands de chez nous ont une petite tache rouge.
Les trois goélands qui,
enfin, les trois,
les trois qu'on vient de citer, oui.
Et par contre, alors le goéland argenté, ses ailes grises, on voit bien. Mais alors le goéland marin et le goéland brun, enfin, franchement, je trouve que c'est difficile de les distinguer. Peut-être la taille, c'est...
Alors, au niveau de taille, goéland argenté et goéland brun sont à peu près de la même taille. Ils font à peu près 1m30, 1m40 d'envergure pour un petit kilo en poids. Le goéland marin, lui, il est plus gros. Il a 1m50 d'envergure, il peut peser jusqu'à 2 kg. Et après, une des critères à regarder entre la couleur du dos, c'est aussi la couleur des pattes. Puisqu'il y en a deux, l'argenté et le marin, qui ont des pattes roses, alors que le goéland brun, il a des pattes jaunes.
Et le goéland marin, de toute façon, on le verra peut-être moins que les autres, non?
Alors,
s'il s'appelle marin, il y a une raison.
Le goéland marin s'appelle marin, mais on peut aussi le trouver à l'intérieur des terres, puisque lui aussi, il habite en ville.
Ah bon? Ah d'accord, je pensais qu'il était vraiment, qu'il restait beaucoup plus... au large. Donc ils habitent tous en ville en fait.
On peut tous les trouver en ville, tout à fait.
Comment est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leur...
Alors à la base, ces espèces-là sont des espèces qui vivaient au bord de la mer et qui sont un peu les charognières du bord de mer, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de cadavres, de poissons, etc. Ou ils vont à la pêche au boule, hein, et eux aussi ils savent faire ça, manger des étoiles de mer, bref, tout ce qui traîne sur le bord.
Quand ils font la pêche au moule, ils tapent avec leur bec ou ils le projettent
non,
de plus haut?
Alors quand ils font la pêche au moule, ils avalent les moules en entier.
Oui, c'est vrai, voilà. Comme les os de poulet, j'ai déjà
c'est
vu.
C'est ça, et après ils recrachent les coquilles qui n'ont pas été digérées. Non, c'est quand ils veulent manger une huître que là, ils la laissent tomber d'en haut pour qu'elle se casse.
Le gésier, c'est le gésier qui casse à l'intérieur.
Après, les moules, elles sont broyées entre les sucs digestifs et l'action mécanique. Mais, mais oui, ils avalent les moules en entier, ça se digère après. Et après, ils vont recracher ce qu'on appelle une pelote de réjection, qui est les éléments non digérés. Et donc, quand ils mangent des moules, ça fait un petit tas noirâtre de plein de petits éléments friables qui sont les coquilles de moules qui n'ont pas été digérées.
On en voit beaucoup sur la plage.
Alors, ces pelotes qui contiennent des moules, en fait, elles se défont très rapidement puisqu'il n'y a quasiment que de la coquille. Donc, quand elles viennent juste d'être recrachées, ça forme un joli petit cylindre, un petit rond, mais rapidement, ça va se désagréger. Dès que ça sèche, en fait, ça va se détériorer.
Donc ils mangent, ils sont surtout carnivores en fait, c'est ce qu'on comprend.
Non, ils sont omnivores. Ils sont omnivores, ils vont manger de tout, ils vont manger des graines de maïs, ils vont manger tout ce qu'ils trouvent en fait, tout ce qui se mange.
C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus dans l'intérieur des terres.
Ben, c'est ça que leur capacité d'adaptation, c'est que comme ils sont omnivores et opportunistes, eh ben, ils peuvent tout ce qui se trouve à bout de bec est intéressant pour eux. Et c'est ça qui explique leur histoire durant les dernières décennies.
Dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que, à part manger, qu'est-ce qu'ils font de beau?
Ben comme nous, hein, ils mangent, ils dorment, ils se promènent.
Comment ils dorment? Ils dorment en volant ou
Non, ils dorment soit sur l'eau, soit à terre. Mais eux, ils ne dorment pas. Oui, il y a des oiseaux qui dorment en volant, mais ce n'est pas le cas de nos goélands.
Et chez nous, est-ce que les goélands migrent?
Oui, les goélands migrent. Alors, le plus grand migrateur de nos trois goélands, c'est le goéland brun, qui, pendant l'hiver, va descendre jusqu'aux côtes africaines.
Et tout le temps, enfin, il n'y en a pas qui restent.
Si, il y en a de plus en plus qui restent, comme chez un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Hein. Le dérèglement climatique entraîne aussi un dérèglement des migrations chez les oiseaux. On a de plus en plus de goélands bruns qui passent aussi l'hiver chez nous. Mais parmi nos trois espèces de goélands, c'est lui qui va partir le plus loin.
Et il migre, les goélands argentés par exemple, on a l'impression qu'ils ne migrent pas, qu'ils sont là tout le temps. Ils migrent quand même parfois.
Alors, ils migrent, disons qu'il y a une période de l'année, fin d'été, début d'automne, où ils disparaissent des zones de reproduction et ils se dispersent un peu autour. Ce n'est pas une vraie migration, ils ne vont pas très très loin. Mais souvent, les jeunes individus ont tendance à se promener un peu plus que les plus anciens.
Et j'imagine que les déplacements dépendent de la reproduction, notamment du cycle de reproduction, c'est ça
En fait, génétiquement parlant, il y a le goéland brun, il est habitué à aller passer l'hiver sur les côtes africaines, alors que l'argenté, le marin, ils vont rester plutôt chez nous passer l'hiver. Voilà.
Et où nichent-ils? Comment nichent-ils?
Alors, à l'origine, ces trois espèces nichaient sur des îlots, voire sur des falaises maritimes. Chacun a ses petits milieux qu'il affectionne. Le goéland brun aime bien quand il y a de la végétation sur les îlots. Le goéland argenté, lui, il est un peu plus opportuniste. Et le goéland marin, à l'origine, il nichait de manière isolée et puis il aimait bien être en position dominante sur l'îlot pour superviser tous les autres. Voilà, ça c'était au départ. Et ensuite, leur aventure a évolué quand les populations ont augmenté grâce à notre monde du déchet, puisque notre civilisation produit des déchets à la tonne. Voilà. Et donc, dans les années, des années 60 aux années 80, ces ressources alimentaires d'origine humaine, les grandes décharges à ciel ouvert, comme celle du Kévéo Spernote à Brest, par exemple, par le passé, mais aussi tout ce qui était rejet de la pêche industrielle, tout ça a permis aux goélands de voir leurs effectifs augmenter. Et quand les populations ont atteint un niveau assez important, en quelque sorte, le milieu naturel était un peu saturé. Et certains goélands se sont dit qu'ils allaient aller explorer d'autres milieux. Et puis, ils ont trouvé le milieu urbain. Et un milieu urbain, en fait, c'est des îlots. Sauf qu'entre les pâtés de maison, ce n'est pas la mer qu'il y a, c'est du bitume. Mais pour eux, c'est à peu près la même chose.
Ouais, du moment qu'ils ont à manger, ils s'en fichent. Ouais.
Et du moment qu'ils ont à manger. Donc, ils se sont installés en ville. Et depuis les années 70, ils ont colonisé de plus en plus de villes. C'est pour ça qu'on les voit en milieu urbain quasiment toute l'année.
Mais quel type, ils ont une préférence pour certains types de bâtiments ou pas?
Oui, alors ils aiment bien les grands immeubles avec des toits plats.
Bon.
Voilà.
Donc les zones industrielles, c'est bien pour
Après,
eux.
Ils aiment bien les zones industrielles parce qu'il y a des toits en fibrociment. Le fibrociment, c'est bien parce que c'est chaud et que c'est rugueux et du coup, c'est facile d'accrocher son nid dessus. Voilà. Donc il y a des toits à goélands, effectivement. Et si au départ, ils étaient présents plutôt sur les villes littorales, on va en trouver à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, il y a des colonies en Bretagne qui sont à l'intérieur des terres, à Pontivy, à Fougères, à Rennes. Des goélands qui ne doivent jamais voir la mer, peut-être. On n'en sait rien.
Oui, ça ne leur manque pas, apparemment. Et ils fabriquent leur nid avec quoi?
Alors, ils vont fabriquer leur nid avec tout ce qu'ils trouvent. Ceux qui sont au bord de mer, des fois, ils vont faire un très joli nid avec que des algues sèches, par exemple, qu'ils ont trouvées. D'autres, à l'intérieur des terres, ils vont faire avec de l'herbe, des déchets aussi, des morceaux de sacs plastiques, bref, tout ce qu'ils vont trouver qui va leur permettre de construire leur nid.
C'est un nid classique en forme de cuvette?
Oui, c'est un nid plus ou moins impressionnant. Chaque année, il le rehausse sur certains toits. Quand les toits ne sont pas régulièrement nettoyés, on a des nids qui, au bout de quelques années, appuyés contre une cheminée, peuvent atteindre facilement un mètre de haut.
Ah oui, parce qu'ils reviennent toujours au même endroit pour nicher?
Oui, tant que la reproduction se passe bien, ils vont avoir tendance à revenir nicher sur leur même toit et au même emplacement. Donc ils réoccupent leur vieux nid tous les ans et ils le rehaussent quand les intempéries n'ont pas tout lessivé. En milieu naturel, tout est lessivé pendant l'hiver avec, avec soit les vagues qui passent par-dessus les îlots, la pluie, le vent, etc. Mais en milieu urbain, on trouve effectivement des endroits abrités où les bases de nid vont rester d'une année à l'autre et ils continuent d'empiler.
Donc ça fait des tours de nids.
Ça fait des nids très volumineux, les plus hauts que j'ai. Ouais, ils font un mètre de haut.
Ah oui, quand même. Et est-ce qu'ils sont fidèles, les goélands? On n'a pas trop parlé de leurs interactions, mais déjà, est-ce qu'ils...
Oui, de manière générale, le couple est fidèle à partir du moment où la reproduction réussit.
Et ça dure combien de temps, la période de reproduction, dans la vie d'un goéland?
Alors, le goéland, il commence à se reproduire vers l'âge de 4 ans, en général. Et la durée de vie moyenne d'un goéland, c'est de l'ordre de la quinzaine d'années. Mais on a des âges records à 30-35 ans. Les jeunes calmants des goélands sont de l'ordre de cet âge-là.
Et ils se reproduisent vraiment pendant 30-35 ans, ces animaux-là, ces oiseaux?
Oui. Si on prend l'âge moyen de 15 ans, ça veut dire que pendant une bonne dizaine d'années, les oiseaux vont se reproduire et produire des jeunes qui vont à leur tour...
Reproduire, etc. Et leur livrée, alors, ils ont un plumage quand ils sont jeunes qui est différent de celui de...
Oui.
Ça dure les 4 ans avant qu'ils soient fertiles?
Non, à partir de 3 ans, ils ont un plumage qui est quasi identique à celui de l'adulte. Quand ils s'envolent, ils ont un plumage tout marron tacheté et petit à petit, ils vont avoir les plumes grises ou noires qui vont apparaître. Et à 3 ans, ils ont un plumage qui est quasi similaire à celui des adultes. Et à 4 ans, ils ont un plumage tout propre.
Et là, si on parle des goélands en ce moment, c'est parce que c'est la période des nids, hein, c'est ça aussi.
Là, ouais. on est quasi mi-avril, c'est-à-dire que les premières pontes ont déjà eu lieu ou vont avoir lieu pour les plus précoces d'entre eux. La majorité d'entre eux pondent fin avril, début mai. Mais
il y a une seule ponte dans la saison.
Il y a une seule ponte dans la saison, tout à fait. Il y a une seule ponte dans la saison parce que donc ils commencent à pondre au mois d'avril. Après, il faut compter 4 semaines d'incubation avant que les œufs éclosent. Et après, il faut compter à peu près 6 à 8 semaines d'élevage avant que les jeunes s'envolent.
Et combien de poussins par...
Alors, en général, ils pondent 3 œufs. Et le nombre de jeunes qu'ils arrivent à élever dépend énormément de l'endroit où ils habitent. Puisqu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus favorable pour le goéland des villes que pour le goéland des îles. Et oui, le goéland des îles, si on prend une situation où on a 10 couples... ces 10 couples, ils vont réussir à élever 6 jeunes.
6 oui. 60%, c'est pas mal.
Voilà. Alors qu'en ville, pour 10 couples, ils vont en élever 14.
Oh, ah oui.
Parce qu'aujourd'hui, pour le goéland des îles, tout ce qui était facilement accessible autrefois, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, n'existe plus pour s'alimenter. Alors que le goéland des villes, il suffit de regarder quel est l'état des villes, il y a toujours à manger sur le coin de la poubelle, dans les vers de terre, dans les pelouses des ronds-points, dans les pelouses des terrains de sport, etc.
Et il a bien de quoi nourrir ses petits, en fait. Voilà. Enfin, quand on dit 14, c'est 14 sur l'ensemble de sa vie.
Sur une année donnée, si on considère 10 couples qui nichent en ville, ils vont élever 14 jeunes, alors que les 10 couples en milieu naturel n'en vont en élever que 6. Donc on a une énorme différence aujourd'hui entre la vie en ville et la vie sur les îles.
Et alors, malgré ça, leurs effectifs diminuent, c'est ça?
Oui, comment vont-ils? Les effectifs sont en déclin, effectivement, puisque pour le goéland argenté, la population a été quasiment divisée par 3 en 30 ans.
Et alors pourquoi?
Pour ces mêmes questions de ressources alimentaires. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 60, 70, 80, il y a eu un boom démographique qui s'expliquait par le fait qu'il y avait ces grandes décharges à ciel ouvert, ces rejets de pêche, ces déchets issus de la pêche industrielle qui étaient facilement accessibles 24 heures sur 24 partout sur le littoral. Et quand tout ça a changé, que les grandes décharges ont fermé, etc.
Ce dont on ne va pas se plaindre, ceci dit.
Voilà, ce dont on ne va pas se plaindre, que les pratiques de pêche industrielle ont également changé, ces goélands-là se sont retrouvés face à une pénurie alimentaire. Et donc, automatiquement, face à cette pénurie, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, ils ont moins de jeunes et puis eux, ils beurrent plus tôt. Voilà. Alors qu'en ville, la situation reste globalement un peu plus favorable. C'est-à-dire que le déclin majeur aujourd'hui concerne principalement les colonies qui sont implantées en milieu naturel. Et leur présence en milieu urbain donne au grand public l'impression trompeuse qu'ils sont toujours aussi abondants, ce qui n'est pas le cas.
Et est-ce que la majorité des colonies sont désormais en milieu non naturel?
Alors, pour le moment, en ce qui concerne le goéland argenté, à l'échelle bretonne, il y a un tiers de la population, ou plus d'un tiers de la population qui est installée sur les toits.
Ah oui, donc ça progresse. Mais...
Ça progresse, c'est-à-dire qu'on a le déclin au milieu naturel qui continue et l'urbanisation qui se poursuit. Donc à un moment donné, on arrivera à un état où la majorité des goélands argentés bretons seront installés sur les toits.
Et ça a changé quelque chose à leur comportement?
Alors, ça a changé quelque chose à leur comportement, parce qu'en milieu naturel, ils ont une période où ils désertent les colonies, alors que sur les toits, ils vont être présents beaucoup plus longtemps. On les voit quasiment toute l'année sur les toits. Et l'autre élément, c'est que les liens parents-jeunes durent plus longtemps en milieu urbain. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on peut voir un couple de goélands adultes sur son toit qui sont encore accompagnés du ou des jeunes de l'année, qui sont toujours là.
Et d'une manière générale, c'est un animal qui semble très social, vivre en troupeau, enfin pour les argentés en tout cas.
Oui, en colonie, ce sont des oiseaux coloniaux. Ouais, qui, après, on trouve certains qui nichent de manière isolée, mais oui, on peut avoir des colonies particulièrement denses.
Et d'ailleurs, ils ont un langage, bon là, c'est vrai que j'ai pas isolé des sons de goélands, mais ils ont un langage assez élaboré. Hein, quand
oui,
on
ils parlent goéland, tout à fait. Ils ont des cris pour tout, ils ont des cris liés aux parades nuptiales, ils ont des cris liés à l'élevage des jeunes, ils ont des cris d'alarme, ils ont des cris d'attaque, ils ont tout.
Combien de cris?
Alors le nombre total, je pourrais pas le dire.
Ouais, il me semble que c'était 200, ce que Yann Jacob m'avait dit, il me semble, mais ouais. Bon, votre collègue.
Oui, bah, y a Boris Cyrulnik qui parlait goéland aussi.
Ah, formidable.
Il travaille sur le goéland de Méditerranée.
Mais voilà. C'est difficile d'imiter le goéland, je trouve.
Oui, c'est difficile, tout à fait.
Vous savez faire,
pour un peu d'entraînement, je ne vous le ferai pas à la radio.
Ah, dommage. Donc ces goélands ne sont pas quand même menacés.
Eh ben aujourd'hui, oui, effectivement, au regard du fait que par rapport aux populations qu'ils avaient à la fin des années 80, ils sont en déclin. Mais ce qu'il faut bien percevoir là-dedans, c'est que à la base, ils n'auraient jamais dû quitter l'état dans lequel étaient ces populations dans les années 50, puisqu'on leur a mis à disposition, en gros, des conditions fantastiques pour que les populations augmentent et que les populations s'installent en milieu urbain. Donc on est totalement responsable de ce qui s'est passé, nous, humains. Et aujourd'hui, ils sont en déclin. Là encore, par notre faute, voilà, et que donc, une fois de plus, l'humain dérègle un peu le milieu naturel et la faune qui va avec, voilà.
Mais disons que là, il retrouve un niveau d'effectif plus naturel, en fait.
Il retrouve un niveau d'effectif plus naturel, tout à fait, sauf que dans le même temps, ils ont appris à s'installer en milieu urbain et que du coup, cette partie urbaine de la population, elle peut parfois poser un certain nombre de problèmes de cohabitation l'humain.
Alors, que leur reproche-t-on, à part de faire peur avec leurs petits yeux de dinosaures?
Alors, oui, on dit qu'ils sont...
ils ont l'air terribles, je trouve.
Menaçants. Mais non, ils ne sont pas menaçants. On leur reproche déjà d'être salissants, parce que, nous aimons tous les voitures, donc quand la voiture est recouverte de fientes de goéland, ça ne plaît pas. Quand la façade des bâtiments est recouverte de fientes de goéland, ça ne plaît pas non plus. Voilà. Après, comme ils nichent sur les toits, des fois, tout le volume de matériaux qu'ils amènent peut aussi poser des problèmes d'évacuation des eaux, etc. Ça, c'est un des reproches.
Ah oui, d'écoulement, surtout si le toit est plat, ça ne peut plus s'écouler à cause des nids. Hein,
oui,
d'accord.
Oui, c'est ça, tous les matériaux de nids vont aller boucher les évacuations d'eau, etc. etc.
Bien sûr.
Donc, oui, les salissures font partie des reproches. Après, on leur reproche aussi le bruit. Puisque c'est vrai qu'ils sont un peu bruyants. Déjà, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard.
Ils sont pénibles.
Voilà. Et quand ils ont les poussins sur les toits, c'est une phase encore plus bruyante, parce qu'il y a tous les cris des poussins qui crient quand les parents viennent leur amener à manger, quand ils apprennent à voler et qu'ils s'entraînent à volter au-dessus des toits. C'est pareil, c'est bruyant. Donc oui, il y a un volume sonore en période de reproduction, et à un moment donné, la colonie est à son maximum d'intensité sonore. Voilà, donc ça aussi, ça... Voilà.
Alors, il y a des goélands qui viennent voler les glaces des gens, en plus. On en a vu des films.
Alors oui, il y a plein de photos et de films sur ces goélands qui se spécialisent et qui ont découvert que, il y a des endroits où on peut manger des glaces, où on peut manger des burgers, où on peut manger des parts de pizza. Moi, j'ai quelques petites photos de piochées à gauche, à droite sur Internet, avec un exemple où c'est le vendeur de pizza qui met... les parts de pizza volées pour les goélands ne sont pas remboursées.
Ah ouais, c'est ça.
Voilà. Voilà. Mais oui, ça existe à plusieurs endroits, oui, effectivement. À Brest, par exemple, pendant des années, il y avait un goéland qui était spécialisé, qui visait une poissonnerie. Et il était perché sur le lampadaire, et dès qu'il pouvait, il partait en vol dans la poissonnerie, il piquait un poiscaille ou un truc, et puis il repartait vite fait.
Et en termes d'hygiène, on dit par exemple que les pigeons sont les rats du désert. Est-ce que les goélands peuvent, contaminer les humains avec des maladies?
Alors, le problème souvent va se poser sur des usines agroalimentaires qui doivent respecter un certain nombre de règles. Et si, s'ils n'ont pas bien géré leurs poubelles et que les goélands se sont installés chez eux, au bout d'un moment, on va avoir de la fiente de goéland, des plumes de goéland, et ça peut effectivement poser un certain nombre de problèmes. Après, des fois, fois, on accuse les goélands d'avoir contaminé un plan d'eau, etc., voilà, avec les fientes. Mais c'est plus facile d'accuser les goélands que de chercher qui est à l'origine de la pollution.
Et dans l'agriculture, par exemple, on les voit quand il y a des travaux, des champs, on voit des nuées de goélands derrière le tracteur. Ça,
oui,
c'est un problème
Non, ils adorent les vers de terre.
Ah, oui.
Ils adorent les vers de terre, c'est pour ça qu'on les voit derrière les tracteurs. Et c'est pareil, après la pluie, on va les voir sur les pelouses, sur les ronds-points, par exemple, qui sont en train de taper du pied. Et ça, c'est leur petite danse là, qui leur permet de faire remonter les vers à la surface en imitant la pluie qui tombe.
Ah ouais, c'est ça.
Voilà,
en fait,
le vers de terre ouais. remonte. Et fini dans le bec
que
du goéland.
Que les vers de terre, pas les limaces, par
non,
exemple.
Non, non, ça c'est pour les vers de terre. C'est pour les vers de terre. Mais s'ils trouvent une limace, ils la mangeront aussi.
Bon, d'accord. Et si, est-ce qu'ils ont, alors eux, ils sont prédateurs, hein, c'est sûr. Est-ce qu'ils ont des prédateurs, notamment en ville, enfin, alors en mer, oui, j'imagine qu'ils en ont.
En ville, ils sont protégés des prédateurs terrestres, puisqu'on va pas trouver, on va pas trouver de renards et de rats sur les toits. Voilà, donc c'est.
Est-ce que ça serait les œufs surtout ? Il y a pas les chiens vont pas attraper les goélands vivants.
Les œufs, les poussins, oui, si après au sol, des chiens, des chats pourraient aussi avoir un impact. Mais en milieu urbain, ils sont relativement protégés. En milieu naturel, il y a aussi de la prédation, c'est-à-dire que le goéland marin, qui est le plus gros, peut aller manger les œufs et les poussins des goélands argentés, les goélands bruns. Et ce phénomène-là, en milieu urbain, on l'observe quasiment pas.
Ouais, et il n'y a pas d'autres oiseaux qui pourraient venir manger leurs œufs sur les toits ?
Non. Mm-hmm. Ah. Après, on peut avoir des corneilles qui peuvent se spécialiser, mais souvent, la corneille, elle va venir piquer l'œuf dans le nid quand le goéland il est parti, voilà. Pas quand il est dessus.
Donc, on leur reproche un certain nombre de choses. Donc, on met en place des mesures. Parfois, il y a des villes qui mettent en place des mesures contre les goélands, je crois.
Oui, il y a des villes, depuis les années 90, qui ont mis en place des mesures de stérilisation des œufs de goéland pour essayer de résoudre le problème.
Et comment on fait concrètement, ça ?
Ben, il y a un produit à base d'huile qui va être aspergé sur les œufs, qui va obturer les pores de l'œuf, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange, l'embryon ne va pas se développer et les œufs ne vont pas éclore.
On l'étouffe en fait en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. À l'origine, cette technique-là, l'idée était qu'en montrant au goéland qu'il échoue systématiquement quand il essaye de se reproduire sur les toits, ils se disent finalement je vais retourner en milieu naturel. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque le milieu naturel, il ne leur veut plus.
Vraiment, c'est à ce point-là.
Il en a assez d'aller à la pêche aux moules. Lui, il veut du
burger. Parce qu'il y a peut-être de moins en moins de moules, accessoirement, on ne l'a pas dit.
il veut du burger et de la junk food.
C'est fou, ça.
Donc, le goéland qu'on a dissuadé de nicher sur un toit d'une ville, ce qu'il est allé faire, il est allé nicher sur le quartier d'à côté ou sur la ville d'à côté. Et donc, cette tentative de lutte, finalement, a généré une urbanisation croissante et l'apparition de plus en plus de nouvelles colonies.
Donc, ça ne fonctionne pas.
Et aujourd'hui, en France, à l'échelle nationale, sur l'ensemble des secteurs, on doit approcher les 200 villes colonisées par les goélands.
Et d'autres mesures ont été tentées
Alors, ils ont tenté des mesures d'effarouchement, mais ça ne marche pas. Et après, il y a des villes qui ont aussi décidé que finalement, puisque le goéland était installé et qu'en plus, il était en déclin.
Et c'est une espèce protégée, non ?
C'est une espèce protégée, ce sont des espèces protégées, oui.
Donc, il faut des dérogations, de toute façon.
Il faut des dérogations pour détruire les nids, les œufs, les poussins, et puis le dérangement intentionnel est interdit. Donc, il y a des villes, comme c'est le cas de Granville, par exemple, qui avaient commencé par faire de la stérilisation, et puis un jour, ils se sont dit, non, on va arrêter et on va travailler à chercher des moyens de favoriser la cohabitation entre humains et goélands pour le bénéfice des deux. Voilà, c'est une approche totalement différente.
Comment ont-ils fait ?
Ils ont réuni un comité de citoyens, ils ont émis un certain nombre d'actions, ils ont défini un plan d'action qui prend en compte des éléments de connaissance, mieux connaître la vie des goélands pour mieux comprendre ce qu'on observe, la coordination entre les équipes municipales, les citoyens, etc., etc., de la communication pour informer les habitants, et également des actions ciblées sur les déchets, avec les restaurateurs, avec les différentes entreprises qui produisent du déchet alimentaire. Et également des questions d'urbanisme, puisque si les goélands nichent sur un carré de cheminée, c'est qu'ils ont de la place pour s'y installer, par exemple. Et que donc, il faut réfléchir en termes d'architecture pour ne plus construire des cheminées ou des toits goélands.
Voilà. Donc on fait des trucs pointus, par exemple
On cherche des subtilités qui font que le goéland ne peut plus caler son nid là où il le calait très facilement auparavant.
Et ça fonctionne
Pour le moment, il n'y a pas assez de recul. Ils ont mis ça en place depuis quelques années seulement. Mais ils ont effectivement pris une nouvelle direction. Lieu de dépenser des dizaines de milliers d'euros annuellement pour tenter de faire partir ces goélands.
Et il n'y a pas quand même des gens qui se mettent à apprivoiser les goélands ? Enfin, je ne sais pas si le goéland est apprivoisable.
Le goéland, comme toute faune sauvage, le code rural dit qu'il n'y a pas le droit de les nourrir. Voilà.
Ah bah oui. Ouais. Donc on a pas, voilà, il y a pas des gens qui recueillent des goélands au nid et qui
si,
se mettent à les.
Ça arrive
parfois. Et ça peut fonctionner.
Ça arrive
parce...
parfois, mais c'est enfin à la base c'est interdit puisque c'est une espèce, protégée, sauvage, voilà. Mais oui, il y a des goélands qui s'y habituent. On sait que dans des centres hospitaliers, par exemple, on a des goélands qui viennent taper au carreau parce que les patients qui sont là, ça leur fait une petite visite dans la journée, ils leur donnent à manger. Donc après, le goéland est habitué. On a quelques témoignages aussi de goélands habitués à partir à la pêche avec leur petit pêcheur du coin sur son petit canot. Là, qui font tout le tour.
Toujours le même, oui,
toujours le
on
même,
le reconnaît.
Posé à l'avant du bateau et qui va manger les morceaux de maquereau et de sardines quand il va vider son poisson au lieu. Voilà.
Et sinon, manger des burgers, des pizzas, c'est pas mauvais pour eux. Ça va pas faire réduire justement les populations, ça.
Et pour le moment, c'est pas le cas, puisqu'on voit que leur succès est plus important en ville qu'en milieu urbain. À terme, peut-être, on ne sait pas encore.
Ouais, mais... c'est une nourriture qui est quand même très salée. Enfin, quoi que le sel, c'est parce que
le sel, c'est parce qu'il les gêne le plus.
Le gras.
Le gras, peut-être. Non, le sel, ils ont, comme tous les oiseaux marins, ils ont ce qu'on appelle une glande à sel qui leur permet d'excréter le surplus de sel qu'ils ont avalé en mangeant. Donc le sel n'est pas un problème pour eux.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Bernard Cadieux. C'était passionnant, cette émission sur les goélands. Et on peut réécouter sur le site internet de la radio, bien sûr, toutes les émissions réalisées avec Bretagne Vivante.
Voilà, et s'il fallait un mot de la fin, je dirais que si le goéland est un peu bruyant, il n'est pas si méchant.
Non, c'est vrai. Merci.
Au revoir. Au revoir.